Mesdames et messieurs, bonsoir. Après le pillage et l'incendie de la Cour suprême des justices, quelle suite pour le recours de l'Union pour la Nation? Cette question est donc au cœur de notre débat de ce soir. En effet, depuis les incidents de mardi dernier, les audiences sont suspendues à la Cour suprême des justices jusqu'à nouvel ordre. Faut-il le rappeler, cette cour a été pillée et incendiée mardi dernier par des inciviques alors qu'elle était en train d'examiner la requête de l'Union pour la Nation contestant la victoire de Joseph Kabila au second tour de la présidentielle. Les locaux de cette institution sont donc à ce jour pratiquement inutilisables. Des matériels des bureaux et des archives ont été brûlés et d'autres emportés par les pillards. Plusieurs questions se posent. Est-ce que l'examen de la requête de Jean-Pierre Bemba va se poursuivre? Si oui, où est-ce que les audiences pourraient se tenir et dans quel délai? Nos auditeurs ont déjà leur réponse à ces questions. Pour Théodore Mbongo de Mbujimayi, Kasai Oriental, la Cour suprême des justices est une institution qui doit avoir un caractère de permanence et de stabilité dans toutes les situations, ce qui revient à dire que s'il y a la volonté, même sous un arbre, on peut siéger. Pour Jackson Ngeleka de Mbujimayi, toujours au Kasai Oriental, brûler la Cour suprême des justices n'est pas une solution parce que les magistrats peuvent se réunir même dans une chambre d'hôtel et rendre le verdict. Bahiro de Bukavu au Sud Kivu écrit ceci. Si la Cour suprême a été incendiée, les magistrats, eux, sont en vie et donc il ne faut pas reporter ces audiences. Joël Debé Ninor Kivu pense que ce n'est pas la délocalisation du lieu qui nous évitera des nouvelles castes. Jean Bosco, IND à Goma Nord Kivu pense que pour éviter les désordres et des prétextes de la population, la Cour suprême de justice doit vite trancher le problème de l'Union pour la Nation et nous donner les résultats finaux de notre élection. Limeka, à Lissala dans la province de l'Équateur, dit ceci, l'Union pour la Nation doit d'abord restituer les biens pillés par ces hommes à la Cour suprême avant l'ouverture de l'audience. Et Serge Mwambila dit sur aux provinces orientales propose que si la Cour de justice reprend les audiences, qu'on délimite le nombre des partisans de l'Union pour la Nation qui vont y participer. Et comme invité, nous sommes avec Monsieur Chimangantolo, qui est secrétaire général adjoint du syndicat national autonome des magistrats, mais également président de la Cour d'appel de Kinshasa Limité. Charles Djerpo, qui est chargé du programme d'appui au Parlement du NDI, National Democratic Institute, juriste et professeur de droit public à l'Université nationale du Bénin. Il est également le président, ancien président de la Commission électorale nationale autonome pour les élections présidentielles de 2001 au Bénin. Et maître Thomas Luango, avocat près la Cour suprême de justice et analyste politique. Bonsoir donc à tous nos invités.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Encore une fois, bonsoir et commençons cette émission directement par voir dans quel état se trouve la Cour suprême de justice après les pillages et l'incendie des mardis derniers. Notre confrère René Capita était sur le lieu hier, mercredi. C'était au moment où le vice-président en charge de la Commission politique défense et sécurité, Azarias Rouberoy, ainsi que le gouverneur de la ville, l'amiral Liwanga, étaient sur le lieu pour constater les dégâts causés par ces incidents, suivant donc la correspondance de notre confrère René Capita.
Les abords de la Cour suprême de la justice offrent encore un spectacle désolant cet avant-midi. Lorsqu'on s'en approche, on est tout de suite frappé par l'odeur de la fumée qui s'y dégage. Dans la cour intérieure, on voit traîner des papiers brûlés, mais aussi des restes des machines à dactylographier et des débris de meubles cassés. Du côté de la maison communale de la Gombe, le tableau n'est pas non plus beau à voir. Les portes, autant que les fenêtres, ont été arrachées. Du papier et des restes des meubles gisent par terre devant cet édifice municipal. Notons enfin que pour l'instant, le vice-président en charge de la commission politique, défense et sécurité et le gouverneur de la ville effectuent un tour d'inspection afin de se rendre compte des dégâts causés par les manifestants. Depuis la Cour suprême de justice, on est à Pita pour la Radio Kati.
Voilà, nous commençons par vous, Monsieur Chimanga Ntulu. Donc, comme je disais tantôt là, vous êtes secrétaire général adjoint du Syndicat National Autonome des Magistrats et président de la Cour d'appel de Kinshasa Limité. Donc, voilà un peu l'état des lieux, des installations même de la Cour suprême des justices. La question qui se pose aujourd'hui, si les activités reprennent, où est-ce que la Cour suprême des justices va siéger?
Merci pour la question, madame. Mais je crois qu'il y a un des auditeurs qui a abordé cette question et qui a apporté, à mon avis, un début de réponse. La Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo a comme ressort territorial tout le territoire national. Elle peut siéger en n'importe quel lieu de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, c'est même prévu par le texte qui organise les tribunaux, parquets et cours de la République pour rapprocher la justice des justiciables. Et même dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, il est prévu que la Cour, et n'importe quelle juridiction d'ailleurs de la République qui en exprime le désir, peut organiser des chambres foraines, c'est-à-dire siéger en dehors de son siège habituel. Bon. Pour revenir à la question de la Cour suprême de justice, c'est vrai que le bâtiment a été endommagé, il y a eu des pillages, c'est évident. Personnellement, je suis passé par là avant-hier, j'ai vu la hauteur des dégâts. Mais la Cour peut siéger dans n'importe quel local de la capitale, au Palais du Peuple par exemple.
Oui, les auditeurs parlent même en dessous des arbres,
Oui, pourvu que les conditions de l'administration de la justice soient réunies. En dessous des arbres, oui, ça c'est l'extrême, mais ce ne sont pas les bâtiments qui manquent à Kinshasa pour que la Cour suprême, notre plus haute juridiction du pays, puisse y siéger. J'étais en train de citer ici le Palais du Peuple. Je peux citer aussi le palais de la Nation, je peux citer d'autres bâtiments que nous connaissons dans la capitale et qui peuvent valablement recevoir la Cour suprême, du moins la chambre qui a en charge l'examen du recours du vice-président Bemba. Je pense que cela n'est pas un problème en soi. Évidemment, nous déplorons les dégâts qui ont été causés à cet édifice. Nous les déplorons amèrement. Et nous avons l'espoir que cela ne pourra plus se répéter parce que finalement on peut se demander c'est dans l'intérêt de qui que cela se fait.
Oui, nous allons évoluer avant de donner donc la parole à nos autres invités. Disons que devant les dégâts causés par les incidents survenus hier à la Cour suprême de justice, le vice-président Azarias Roubéroy se réjouit d'abord que les dossiers relatifs au second tour de la présidentielle n'ont pas été touchés. Ça c'est un fait. Cela, a-t-il ajouté, permettra à la Cour suprême de poursuivre son travail. Et Azarias Roubéroy, comme vous venez également de le dire, Monsieur Chimanga Ntulu, n'a pas exclu également la possibilité de la délocalisation de la Cour suprême de justice et je vous invite à le suivre.
Il y a des actes et des pièces liées aux élections qui ont été touchées. Dieu merci, le dossier relatif, si vous voulez, au contentieux du second tour est resté intact. Visiblement, les assaillants le recherchaient, mais il est resté intact. Alors, ceci permet évidemment à la Cour de poursuivre ses travaux au-delà du principe de séparation de pouvoir. Le gouvernement est là pour assister la Cour dans un acte de collaboration pour lui permettre de fonctionner normalement et de rendre la décision dans le meilleur délai. Il est possible que selon la procédure, l'acte commis hier soit constitutif de cas de force majeure qui puisse conduire à retoucher au délai de 7 jours, de 1 ou de 2 ou de 3 jours. Parce que la Cour est dans l'impossibilité de siéger. On peut bien s'attaquer à d'autres bâtiments ou à d'autres institutions. À la rigueur, ça se fait comprendre. Mais la Cour suprême, sa compétence et sa force, la loi, je veux dire, est inattaquable, est inviolable. Donc là, nous avons pratiquement dépassé les limites. Et nous sommes en fait attaqués à ce qui nous reste. Je pense qu'il va falloir, si vous voulez, prendre des mesures urgentes. La première mesure sera la délocalisation de la Cour suprême, parce que dans l'état actuel que j'ai vu, la salle d'audience, les bureaux du premier président, ainsi que les autres bureaux et les greffes, ne sont plus à mesure de permettre à la Cour de poursuivre ses travaux dans l'immédiat. Et donc, il va certainement falloir délocaliser la Cour, soit dans la ville de Kinshasa, soit dans une province, parce que son ressort, en effet, est de portée nationale. Mais, en même temps, les personnes responsables de ces actes, qui qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, doivent absolument être identifiés et punis.
Voilà, Maître Thomas Luango, donc nous venons également de suivre Maître Azarias Roubiroy, qui est le vice-président en charge des questions politiques, défense et sécurité. Et effectivement, il parle de la délocalisation et nos auditeurs ont plusieurs questions par rapport à ça. Par exemple, il y a Jacques Bahadé à Kinshasa qui dit « Est-ce que la délocalisation de la Cour suprême peut changer l'intention des fauteurs de troubles ?» Un autre, Demolo Boleke, à Kingasani Pascal, c'est toujours ici à Kinshasa, dit ceci, Kinshasa est la capitale de toutes les institutions de la RDC. Y a-t-il une ville qui soit mieux sécurisée que Kinshasa, où la Cour suprême peut siéger sans complexe et loin de ses vandalismes? Maître Thomas Luango.
Oui, madame, je vous remercie. Je salue fraternellement nos auditeurs, je salue les intervenants. Je voudrais saluer monsieur le professeur Deninois. Ainsi que le magistrat. Je salue bien donc, par exemple, les auditeurs qui posent des questions, qui réfléchissent, qui suggèrent même des solutions. Je pense que savoir si on peut, si la Cour peut être mieux sécurisée en province qu'à Kinshasa, je pense que cette question est assez facile à résoudre. La Cour peut être sécurisée dans toutes les villes du pays, dans toutes les parties du territoire national, et là son ressort sur chaque centimètre carré du territoire national, elle peut donc siéger n'importe où, et elle le fait d'ailleurs couramment. L'itinérance, on l'a vu d'ailleurs au premier degré, au premier tour, en ce qui concerne les élections législatives, au niveau des candidatures, il y a eu des recours qui ont été examinés dans les provinces par des chambres foraine. Ceci est tout à fait possible aujourd'hui. La Cour, même toute section réunie, peut facilement se transporter. Je n'appellerai même pas ça une délocalisation, parce qu'il s'agit tout simplement que c'est un terme qui a été utilisé, je comprends, pour des raisons purement pratiques, c'est plus facile à retenir, mais il s'agit tout simplement que la Cour siège dans un lieu quelconque de son ressort et ce sera tout à fait régulier. La sécurisation est possible, je pense qu'on dispose des moyens. Peut-être qu'on a été un peu distrait, encore une fois, évidemment, c'est dommage. On a été distrait, on a fait confiance, disons, à la population, aux électeurs, au peuple, ce fameux peuple avec P majuscule. Mais là, on est un peu déçu du comportement qui a perturbé la marche normale de la Cour. Mais la Cour va certainement siéger, va certainement rendre sa décision. Maintenant, monsieur le vice-président a parlé du délai. Je pense que le président de la Cour va peut-être délimiter aussi, a parlé du délai qui est imparti à la Cour pour statuer. Mais lorsqu'il y a une situation constituant force majeure ou cas fortuit, il est évident qu'on fera le nécessaire. On a vu cela depuis le début de ce processus électoral. En général, des solutions ont été trouvées qui sont pratiques, mais tout en respectant la légalité. Je pense que...
Oui, Maître Thomas Luango, nous allons y aller étape par étape hein, pour permettre un peu une bonne compréhension avec nos auditeurs. Nous parlons d'abord de la délocalisation. Vous nous dites que c'est prévu par la loi. On ne peut même pas parler de délocalisation parce que la compétence de la Cour suprême de justice est sur l'ensemble du territoire national. Finissons d'abord avec cette question de délocalisation pour enfin parler des cas de force majeure parce que ça c'est une autre notion que nous allons vous demander un peu d'expliquer et il y a plusieurs questions de nos auditeurs sur ça. Mais professeur Charles Djerpo, oui. Au Bénin, vous avez eu des élections présidentielles. Bien sûr, il y a eu aussi des contestations, mais est-ce que vous avez connu des cas où des militants sont venus tout saccager parce qu'ils étaient mécontents et que la Cour a dû suspendre ses activités?
Non, nous n'avons pas connu cet extrême-là. Mais la contestation, oui, on a contesté, il y a eu beaucoup de recours, des centaines de recours parfois pour se faire dire le droit par la justice. C'est la justice constitue l'organe d'arbitrage entre les compétiteurs en matière électorale. Et il faut que nous croyions à la justice de notre pays et que nous laissions chaque institution faire correctement son travail. On peut ensuite critiquer le fruit de ce travail-là. Alors, au Bénin, il y a eu des contestations. Ces contestations ont été portées devant le juge et en matière d'élection présidentielle, le juge du contentieux électoral chez nous s'appelle la Cour constitutionnelle. Alors, chez nous, la situation est légèrement différente parce que la procédure devant les juridictions fêtières, c'est-à-dire les juridictions suprêmes de notre pays, est une procédure écrite. C'est une procédure écrite, chacun développe, fait des mémoires en pliatifs, chacun développe son argumentaire par écrit. Et sur chaque point de nouveau qui se présente, eh bien, il y a la réaction écrite des deux parties. Et on n'a pas l'habitude de voir des foules envahir la Cour constitutionnelle chez nous pour assister à un tel procès. Bon, alors on peut pas comparer le cas béninois et le cas d'ici, mais ce qui est général, parce que le problème de la délocalisation entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas véritablement de délocalisation, et j'approuve les intervenants les deux intervenants qui ont montré que en fait, la Cour est dans sa juridiction et est dans ses localités partout, sur chaque centimètre carré du territoire. J'approuve parfaitement ce point de vue.
Donc, il ne doit pas y avoir de polémique si la Cour décide.
Il ne doit pas avoir de polémique. Chez nous, d'ailleurs, il y a eu une réforme du système judiciaire appuyée par les Belges, justement, par la coopération belge, et où on a voulu justement renforcer la pratique des séances foraines, Et donc le juge se déplace dans les limites de son ressort territorial pour que la justice soit rapprochée des justiciables. Alors ce ne sera pas du nouveau, ce ne sera pas quelque chose, un cas nouveau, ce sera un cas normal. Et on reviendra sur la question quand on parlera du cas de force majeure.
Oui, une autre question, donc c'est là l'état de force majeure que soulevait également Maître Zarias Robérois et bien sûr vous également nos intervenants. Alors il y a un auditeur qui pose cette question, il s'appelle Kétia Prince, bon il nous a pas dit, il nous écrivait d'où exactement. Il dit ceci, peut-on parler d'un cas de force majeure alors que les partisans des Bemba ont délibérément, celui qui l'est dit, incendier la Cour suprême de justice qui doit en supporter les conséquences, Monsieur Chimanga Mtolo.
Oui, madame, je voudrais d'abord relever ici que je ne représente pas la Cour suprême dans cette émission. Je suis venu en qualité de secrétaire général adjoint du syndicat de magistrats. C'est à ce titre que je me permets de prendre la parole. Deuxièmement, je dois relever que je suis tenu à l'obligation de réserve. En tant que magistrat, je ne peux pas exprimer mon opinion sur des questions strictement politiques qui pourraient être soulevées au cours de cette émission. Parce que j'entends des gens dire que c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais sur le plan strictement juridique, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui sont intervenus avant moi que le terme délocalisation est un terme déplacé. Parce qu'en fait, il voudrait simplement dire que la Cour déplacerait son siège légal qui est Kinshasa, ce qui n'est pas le cas. Mais il est prévu, je l'ai dit en intervenant, que le ressort territorial de notre Cour suprême de justice, c'est tout le territoire national.
Oui, ça vous
les gens ont simplifié en parlant de chaque millimètre carré, mais pourquoi pas chaque centimètre carré, pourquoi pas chaque millimètre carré. Là, il n'y a pas de problème. Ok.
Oui, bon. Parlons maintenant
de force majeure. Le cas de force majeure ici doit s'entendre dans le sens du fait que la Cour a été mise et est mise maintenant dans l'impossibilité de siéger et de dire le droit dans ce bâtiment-là. Un cas de force majeure, c'est un événement imprévu, insurmontable.
Et involontaire,
ok, indépendant de la volonté des débiteurs de la prestation, et en l'espèce, ce sont les magistrats de la Cour suprême en charge du dossier qui nous concerne. Donc, la Cour suprême n'a pas été placée dans les conditions telles qu'elle soit en mesure de rendre justice. Il y a un cas de force majeure et ça continue maintenant. On l'a relevé, le bâtiment est inutilisable.
Et quelles sont les conséquences au fait de ces cas de force majeure?
Mais les conséquences, c'est qu'en ce qui concerne le délai auquel on a fait allusion aujourd'hui, eh bien, ce délai il doit être prolongé. On l'a vu, la commission électorale avait demandé la prolongation du délai lorsqu'elle n'a pas été en mesure de rendre le résultat dans le délai qui avait été prévu. Donc, et puis en plus, ce n'est pas à peine de nulliter, il n'y a aucune sanction si la Cour suprême rendait son arrêt au-delà du délai de 7 jours. Vous pouvez lire la loi, je l'ai sous les yeux, je l'ai lu et relu. On ne parle que du délai de 7 jours. Mais maintenant, nous sommes devant un cas de force majeure et tout le monde doit quand même le reconnaître que la Cour actuellement n'est pas en mesure de dire le droit en toute sérénité, compte tenu des incidents de triste mémoire dont nous parlons tout à l'heure. Et oui. Pour ces raisons, la Cour peut rendre son arrêt même au-delà du délai de 7 jours.
Oui, professeur Charles Diarto.
Oui, oui, je voudrais revenir sur la notion, n'est-ce pas, de cas de force majeure. Vous voyez, le cas de force majeure doit s'apprécier par rapport à celui qui doit fournir une prestation dans un délai donné, en un lieu donné et en un temps donné, enfin, dans un délai donné. Alors, ça doit s'apprécier par rapport à la juridiction et non pas par rapport à l'auteur du fait dommageable.
Oui, ça c'est pour répondre à la question de cet auditeur.
Voilà, pour répondre à la question de cet auditeur. Ça peut être les partisans de X ou Y qui causent cela, mais est-ce que celui dont on attend la prestation, à savoir la Cour suprême de justice, n'est pas indépendamment de sa volonté et dans une situation imprévisible, rendu incapable de fournir la prestation qu'on attend de lui. Si tel est le cas, eh bien, nous sommes devant un cas de force majeure. Et cela me paraît tout à fait clair, tout à fait clair. Ça ne va pas s'apprécier par rapport à celui, à l'auteur de l'infraction. La question de l'auteur de l'infraction et autres, ou les commanditaires de l'infraction, ça relève d'un autre contentieux. Nous sommes ici en matière de contentieux électoral. Vous savez, il y a plusieurs contentieux. Il y a le contentieux électoral, il y a le contentieux répressif, il y a toutes sortes de contentieux. Alors ici, nous parlons de contentieux électoral et par rapport à cela, nous sommes bel et bien dans un cas de force majeure. Et l'appréciation de l'acte et la punition de l'acte, si cela devrait avoir lieu, ça relève d'une autre juridiction.
Oui, voilà donc, on vient de comprendre un peu la question de cas de force majeure parce que les magistrats n'ont pas des lieux où maintenant siéger. Il y a un cas de force majeure, n'ont pas des lieux où travailler. Alors il y a un auditeur, maître Thomas Luango, qui pose cette question. C'est un auditeur anonyme, malheureusement il n'a pas donné son nom. Il dit ceci: si les plis du deuxième tour de la présidentielle étaient partis en feu, comment la Cour aurait-elle procédé?
Oui, madame, j'aime l'esprit de nos auditeurs, la maturité du Congolais, cette capacité d'imaginer tous les scénarios. Effectivement, cela, c'est un scénario catastrophe. Qu'est-ce qui devrait être fait? En fait, j'ai dit scénario catastrophe, la survenance d'un tel événement. Mais il a déjà été expliqué que, fort heureusement, dans cette loi électorale, les documents, les procès-verbaux des dépouillements, de même que les fiches des dépouillements, les fiches de recensement, les résultats de chaque bureau, tous ces documents sont établis non pas en un seul exemplaire, mais en plusieurs exemplaires. Je crois avoir entendu même dans une émission qu'on comptait jusqu'à 9 exemplaires, sans compter que chacun des candidats, à travers ces témoins qui étaient dans les bureaux de vote et qui sont ensuite dans les bureaux de dépouillement, puis dans les centres de compilation des résultats, chaque candidat reçoit par ce canal les documents nécessaires, si bien qu'il y a une multitude, on a compté même des dizaines de milliers, je crois, de ces documents qui sont dans le pays. Par conséquent, je crois que ceux qui ont brûlé cela, on a dit qu'ils avaient eu l'intention de rendre impossible le jugement. Je crois qu'ils se sont trompés, si telle est l'intention, parce que je ne m'engage pas à dire que c'est tel ou tel qui a brûlé, on ne le sait pas encore, et il ne faut pas interférer, ça pourrait empêcher la justice de faire son travail ultérieurement. Mais donc, il n'y aurait pas de catastrophe, les documents sont disponibles en pagaille, en très grand nombre, excusez-moi du mot pagaille, mais c'est en très grand nombre, donc on ne serait jamais à court de documents pour cela.
Oui, alors nous évoluons, il y a les résultats provisoires donc du second tour de la présidentielle publié par la CEI qui place, comme vous le savez, Joseph Kabila en tête devant son adversaire politique Jean-Pierre Bemba. Cependant donc les Congolais attendent d'être définitivement fixés sur le nom de leur futur président de la République par la Cour suprême de justice qui devra prendre son arrêt après avoir examiné les recours introduits par l'Union pour la Nation de Jean-Pierre Bemba, donc contestant la victoire de Joseph Kabila au second tour de la présidentielle. Et maintenant, je vous invite donc à suivre ce qui est jusque-là, c'est que ce qui avait déjà été fait par la Cour suprême de justice par rapport à ces dossiers et qu'est-ce qui reste à faire, et comme ça nous verrons si les travaux qui restent à faire va demander à ce qu'on prenne des mesures de sécurité encore plus costauds ou s'il va encore falloir prolonger la date même, prolonger les délais tels que prévus par la loi. Et suivant ces reportages de Freddy Lefloubeau.
Jeudi 16 novembre, la Commission électorale indépendante dépose à la Cour suprême de justice les procès-verbaux contenant les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle. Samedi 18 novembre, l'Union pour la Nation saisit officiellement cette même juridiction. Elle exige l'annulation du scrutin dans certaines provinces pour cause d'irrégularité. Normalement, la Cour suprême de justice devrait examiner cette requête et rendre son verdict dans les 7 jours suivants, c'est-à-dire avant le samedi 25 novembre. Pour respecter ce délai, une première audience se tient le mardi 21 novembre. Dans celle-ci, la Cour a d'abord procédé à l'identification des parties en présence, à savoir une dizaine d'avocats défendant la cause de Jean-Pierre Bemba, les experts de la Commission électorale indépendante et les deux avocats représentant le candidat élu, Joseph Kabila. Ensuite, la Cour a autorisé la présence des journalistes à l'audience telle que souhaitée par les avocats de Bemba avant d'entamer l'examen de leur deuxième exception, celle relative à la contestation des deux des 5 juges soupçonnés d'être des membres de la famille Kabila. À cette exception, la Cour répondra que la question était complexe et lèvera la séance sans pour autant préciser la date de la prochaine séance. Tout de suite après, les événements qui ont conduit au pillage et à l'incendie de la Cour suprême de justice vont se succéder. Conséquence, toutes les audiences, y compris celles de l'Union pour la Nation, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Cependant, lorsque la Cour reprendra ses activités, pour ce qui concerne la requête de l'Union pour la Nation, elle reprendra l'audience sur le cas des deux juges contestés. Ensuite, les avocats de Bemba diront pourquoi ils contestent les résultats publiés par la CEI. Les avocats de la Commission électorale indépendante présenteront leurs moyens de défense. Les avocats de Joseph Kabila pourront aussi faire leurs observations avant que le parquet ne donne ses avis. La Cour devra alors se retirer avant de prononcer son verdict final. Il faudra pour cela 7 jours, estiment des sources proches de cette Cour. 7 jours à compter de la nouvelle date de reprise des travaux. Et jusque-là, la date de reprise des travaux et le lieu ne sont pas encore connus.
Oui, voilà, M. Chimanga Ntolo, vous êtes donc secrétaire général adjoint du syndicat national autonome de magistrats et président de la Cour d'appel de Kinshasa Limité. La date n'est pas connue, mais à suivre ces reportages, on a l'impression que on est encore au début de la procédure, au début même de l'examen de ces dossiers. Est-ce que vous pensez que la Cour suprême aura finalement le temps de tout étudier?
Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons Cour suprême. Ça signifie que vous avez au sein de cette institution la plus élevée, institution judiciaire, je veux dire, la plus élevée de la République, des magistrats chevronnés, qui n'en sont pas à leur premier pas. Je crois que si on leur assure des conditions de sérénité, des conditions de sécurité, ils peuvent, même en un temps record, rendre leurs décisions. Vous avez vu, ils avaient commencé par identifier les parties, et on a soulevé un certain nombre d'incidents sur lesquels probablement ils n'allaient pas se prononcer directement, mais elle a tout de même dit que c'était complexe, et que, compte tenu du climat d'insécurité qui s'était manifesté dans la salle, elle ne pouvait pas poursuivre, n'est-ce pas, l'examen du contentieux. Moi, je crois que nous n'avons pas à craindre de ce côté-là. Ce sont des magistrats chevronnés, c'est question de leur assurer les conditions les meilleures de travail. les conditions de sécurité, de sérénité, et je suis sûr qu'ils sont capables de rendre leurs décisions, peut-être même avant les délais que vous imaginez.
Oui, un auditeur lié 20 à Issiro, province orientale, dit ceci, croyez-vous que la Cour rendra un bon verdict après l'incendie de ces locaux? Un autre auditeur, Jacques Agoma au Nord Kivu, est-ce que la frustration subie par la Cour suprême de justice suite aux derniers incidents ne va pas influencer son jugement? Monsieur Chimangantele.
Madame, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne saurais pas à ce stade dire que la Cour suprême rendra un mauvais ou un bon verdict, mais nous avons confiance quand même dans nos institutions. Je vous ai dit ici que nous avions affaire à des magistrats chevronnés. Ce n'est pas la première fois que ces magistrats examinent ce genre de contentieux. Moi je pense, personnellement j'ai confiance dans nos magistrats. Je suis sûr qu'ils vont dire le droit. Il est évident que dans ce genre de choses, il y a un perdant et un gagnant. Et il appartient à notre peuple d'accepter la décision que la juridiction suprême. Nous avons souvent dit que nous devons respecter nos institutions. Et nous devons respecter les décisions judiciaires. Il faut absolument qu'on se le dise. Ce n'est pas parce que tel aura perdu ou que tel aura gagné un procès que nécessairement on doit jeter des pierres sur l'institution elle-même. Moi, je crois que nous devons faire un effort de ce côté-là.
Oui, professeur Charles Jordan.
Oui, moi je regrette beaucoup ce qui vient de se passer parce que on ne peut pas préjuger de l'issue du procès. Et c'est pour cela qu'il fallait attendre, que tout le monde devrait attendre en toute sérénité jusqu'à ce que la décision soit rendue. Mais moi, je suis rassuré parce que je sais que la magistrature est un corps de la fonction publique de nos pays, un corps de gens qui ne se laissent pas impressionner par le premier événement difficile qu'ils rencontrent. Les juges ont été éprouvés dans plusieurs circonstances et surtout pour arriver à être juge à la Cour suprême de justice, il faut avoir une certaine ancienneté, il faut avoir de l'expérience et autres. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont à
donc
leur
ces incidents
première,
ne vont pas
à leur
influencer.
À mon avis, non. Au contraire, ces incidents vont les pousser tout simplement à rendre une justice méticuleuse et à dire le droit et à ne dire que le droit. À mon avis. Et c'est une incitation à plus de rigueur, à mon avis. Donc, je ne crains pas du tout que les incidents puissent apeurer les juges et les mettre en état de bébé effrayé par le croque-mitaine.
Oh oui, Maître Thomas Longo, pour la suite donc des audiences, il y a Diento Kibonge de Mbujimayi, Kasai Occidental, qui dit ceci, comment sera la position de la Cour suprême de justice en ce qui concerne les audiences qui restent? Se tiendront-elles à huis clos ou seront-elles toujours publiques? Un autre auditeur, lui, il propose ceci. Si la Cour de justice reprenait les audiences, qu'on délimite le nombre des partisans de l'Union pour la Nation pour y participer. Cet auditeur donc s'appelle Serge Mwambila et il nous a écrit d'Issiro en province orientale. Maître Thomas Longo.
Merci madame, je remercie les auditeurs. Ils font des suggestions, c'est très bon. Je pense qu'on doit faire des suggestions, mais en tenant compte que les institutions ne changent pas du jour au lendemain. Les règles de la procédure ne changeront pas. Une cour siège de toute façon dans des conditions de sérénité. Je pense qu'on va les lui assurer. Faut-il décréter le huis clos? Nos textes prévoient que la procédure judiciaire se fait toujours en public. La publicité est une condition de validité de toute la procédure. Maintenant, le huis clos peut être décrété, on l'a expliqué tout à l'heure. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on va décréter le huis clos? Peut-être, mais peut-être est-il plus simple, plus sain pour nos institutions que le maximum soit fait du côté des autorités exécutives pour assurer la protection de cette cour, pour lui assurer les conditions voulues pour qu'elle siège en toute sérénité. Je crois qu'on ne peut pas déjouer le principe du huis clos et je ne pense pas qu'il serait bon que les institutions reculent parce qu'il y en a 100, 200 messieurs, citoyens, je les respecte comme citoyens, qui viendraient chahuter et qui peut-être passeraient même à l'escalade de la violence comme la fois passée. Mais je pense que nous sommes avertis et que le nécessaire sera fait. Je fais confiance à notre pays, à nos institutions. certainement, cette cour va pouvoir reprendre ses audiences et siéger valablement au plan juridique, ce serait valable. Au plan psychologique, les conditions leur seront assurées, j'espère. Je ne vois pas un dirigeant de ce pays qui ne ferait pas l'impossible pour que cette sérénité revienne, que la sécurité soit assurée.
Oui, Maître Thomas Luango, une petite précision. Qu'est-ce qui est fait, par exemple, ou bien qu'est-ce qui est préconisé au cas où la salle d'audience venait à se remplir et qu'il n'y avait plus de place? Est-ce que dans ces cas-là, on chasse tous ceux-là qui viennent en retard ou on leur permet quand même de suivre l'audience?
Oui, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la police de l'audience. Il appartient à celui qui préside la chambre qui siège, de voir quelles sont les nécessités pour que l'audience se passe dans la sérénité. Il peut prendre les dispositions nécessaires, comme on l'a dit, éventuellement décréter le huis clos, l'évacuation donc des personnes qui sont présentes. Notamment, les textes sont assez clairs sur une chose, si le public fait du bruit, fait des manifestations qui sont de nature à influer sur le déroulement de l'audience, même si ça ne influe pas sur les magistrats. Mais il suffit que l'audience soit perturbée, comme on dit, on peut évacuer le public. À ce moment-là, la règle de la publicité est respectée, mais avec un tempérament. Qu'est-ce qui sera fait? Mais je pense que le nécessaire va être fait. La publicité, donc je crois que la question de cet auditeur porte sur la question de la publicité. Si les conditions nécessaires sont réunies, conditions simplement de sécurité et conditions de sérénité pour les magistrats. La publicité de l'audience, notez bien, madame, pour nos juristes, il suffit que les portes et fenêtres de la salle d'audience soient ouvertes, même si tout le monde est dehors, l'audience est publique. Il suffit que les portes et fenêtres de la salle d'audience soient ouvertes et l'audience est publique.
Oui.
Voilà ce que je pouvais dire.
D'accord, Monsieur Chimanga Ntolo, il y a un autre auditeur, avant de passer aux opinions des auditeurs, Jean-Paul Kabona des Katana au Sud Kivu, qui dit ceci, y aura-t-il encore l'installation du nouveau président le 10 décembre, alors que la Cour suprême de justice n'est plus en mesure de publier les résultats dans les 7 jours prévus?
Je ne suis pas membre du protocole d'État d'abord pour pouvoir répondre à cette question.
Ouais, mais parce que tout dépend de la décision de la Cour suprême de justice.
Il est évident que si au moment où la Cour aura rendu son arrêt, les jours qui restent ne permettent pas d'introniser le nouveau chef le 10 décembre, on va décaler, ça c'est pas un problème. Et le protocole d'État est bien outillé pour pouvoir trouver la date convenable pour ce faire. Je crois que...
Donc cela va avec la décision de la Cour suprême de justice.
Mais justement parce que c'est elle qui doit proclamer les résultats définitifs. Et c'est après la proclamation des résultats définitifs que tout le reste ça s'engrange.
Oui, nous allons passer aux opinions des auditeurs avec Babel Mpongo. Babel Mpongo, bonsoir.
Bonsoir. En commençant par Béni Kalinga de Kinshasa, il trouve bon de délocaliser la Cour suprême pour finir dans la paix la proclamation définitive de résultats. Marcel de l'Issala Équateur demande à la Cour suprême de porter plainte à la Cour pénale internationale contre l'Union pour la Nation pour le sabotage de ses installations. Gustave Ninga de Kananga, Kasai Occidental, dit ceci. Malgré les intempéries, le peuple congolais a rempli son devoir civique. Rendez-lui le verdict des urnes selon le choix exprimé par la majorité. Pour J.P. Colongo de l'Issala Équateur, le sort de l'Union pour la Nation est déjà prévisible à cause de sa réaction incendiaire. Kassensira de Béni au Nord qui vous dit ceci, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Aussi longtemps que les auteurs des actes criminels ne seront pas mis hors d'état de nuire, il sera inutile de délocaliser le siège de la Cour suprême de justice. Élisée Abouka Voussou qui vous dit ceci, qu'on ne nous distrait pas, nous attendons beaucoup de la Cour suprême de justice malgré les intimidations. Pour Tonton Moubiaï en Mbujimayi au Kasaï oriental, reporter, c'est encourager l'auteur de l'incendie qui est encore inconnu. Soleil Mosindo de Kisangani, province orientale, propose que la Cour suprême de justice s'installe à Kisangani pour éviter des débordements et que le délai des 7 jours soit respecté. Vili de Kalimi au Katanga demande à la Cour suprême de travailler sans crainte car c'est la justice qui élève une nation. Un autre auditeur dit ceci, qu'on traite le recours du vice-président sans parti pris, même à Kinshasa, s'il a tort, il va accepter sa défaite. Pour Augustin Matina de Butembo Nord-Kivu, l'Union pour la Nation doit être tranquille, car la Cour suprême de justice est impartiale, que l'Union pour la Nation imite l'homme d'État Roubaix-Roi. John de Guémina à l'Équateur pense que l'incendie de la Cour suprême de justice ne peut pas freiner l'audience parce que la requête n'a pas été incendiée. Pour Imani Kaleria Bukavu Sud-Kivu, l'affaire Union pour la Nation et CEI est claire. Il n'est donc pas question de changer la date de la proclamation de nos résultats. Tony Alubumbashi Okatanga dit que quels que soient les verdicts de la Cour suprême, lui est prêt à tout pour porter Bemba au pouvoir. Bernard Mukanga de Kikwito Bandundu voudrait que la Cour suprême de justice ne tire pas les choses en longueur, car le peuple tient à connaître celui qu'il a lui-même élu. Enfin, Carlos Benga de Butembo Nord-Kivu pense que la Cour suprême aura peut-être besoin d'un peu de temps pour faire passer l'émotion et prononcer un verdict vraiment objectif.
Voilà les quelques opinions des auditeurs que nous venons de vous présenter. Maître Thomas Luango, brièvement, votre réaction. Qu'est-ce que vous avez retenu?
Brièvement. La localisation, nous en avons déjà parlé. Il n'y a vraiment aucun problème. Évidemment, les questions des auditeurs croisent nos réflexions et donc ils peuvent revenir sur des choses déjà résolues. C'est le cas de la délocalisation. Quelqu'un suggère une plainte à la Cour pénale internationale. Je lui dirai tout simplement que, à mon avis, la Cour pénale internationale ne serait pas compétente parce que ce qui est arrivé n'entre pas dans les compétences délimitées de façon stricte par la résolution des Nations Unies, la convention qui a créé la Cour pénale internationale.
Oui.
Qu'on dirige une action contre l'Union pour la Nation, je pense qu'on est en train de vraiment sauter les étapes présumer que le coupable c'est un tel et pas tel autre. Je pense que ceci n'est pas un comportement sain. Nous devons laisser la justice faire son travail. Je suppose que les enquêtes nécessaires seront menées et que nous en connaîtrons les résultats. Oui. Voilà, madame.
Oui, Monsieur Charles Diakko, également votre réaction. Vous avez suivi toutes ces opinions à travers la République.
Je souscris à l'analyse de
Maître Thomas.
Maître Thomas, et parce que effectivement, il ne faut pas trancher tout de suite à la place du juge de celui qui est l'auteur de l'infraction qui vient de se commettre. Parce que en matière électorale, j'ai dit tout à l'heure que c'est une matière fortement à haute intensité passionnelle. Alors on sait aussi que bon l'adversaire peut introduire des casseurs lorsque vous organisez des manifestations. C'est pourquoi en matière de contestation électorale, il faut éviter le plus possible de prendre la rue. Parce que quand vous prenez la rue, bon, l'adversaire aussi peut introduire ses casseurs dans vos rangs et ils vont se mettre à casser. On va dire oui, voilà, c'est ceux qui ont organisé la marche ou ceux qui ont organisé la manifestation qui sont cause de ça. C'est pourquoi dans un cas comme celui auquel nous faisons face maintenant, il faut en toute sérénité laisser le soin à la justice d'instruire l'affaire, de faire son enquête et de situer les responsabilités. Alors, ça c'est mon premier point. Deuxième point, à propos des réactions que nous avons entendues, quelqu'un a dit, quelle que soit la décision de la Cour suprême de justice, eh bien moi je vais installer un tel à la tête. Non, alors on n'est pas dans un état de droit. Si on a opté pour un état de droit veut dire un état dans lequel tout le monde, y compris le premier magistrat du pays, jusqu'au dernier citoyen, se soumet à la loi et répond des infractions à la loi devant le juge. Et la décision du juge est acceptée, on s'y soumet. C'est ça les principes de l'état de droit. À partir de ce moment-là, nous devons attendre la décision de la justice. Et même si cette décision est amère pour nous, nous l'avalons, nous la buvons jusqu'à la lit. C'est comme ça.
Oui, M. Chimangantolo, également votre réaction brièvement par rapport à ces opinions des auditeurs.
Oui, je souscris sans réserve à l'analyse faite par mes prédécesseurs. Ça me fait vraiment mal au cœur que certains compatriotes continuent à raisonner dans un système qui n'est plus le nôtre. Nous sommes un état de droit, c'est-à-dire celui dans lequel la primauté de la loi est proclamée Et la justice, c'est bien dit, même dans notre constitution, est rendue au nom du peuple, donc ce même peuple, au nom duquel la justice sera rendue, a le devoir d'accepter sa propre sentence. Donc il serait malheureux que certains compatriotes continuent à raisonner dans un système qui n'est plus celui de la République démocratique du Congo. Bon, dire que... dire qu'il faudrait que la Cour pénale internationale soit saisie, je crois que Maître Luango y a bien répondu, mais de toute façon, laissons la justice faire son travail. Nous avons deux contentieux différents ici. Ici, nous avons le contentieux électoral. Il y aura un contentieux répressif, on l'a dit ici. Je crois que les enquêtes doivent avoir déjà été entamées. Mais il ne faut pas anticiper. La justice établira les responsabilités de chacun.
Oui. Merci beaucoup donc à tous nos invités et c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.